Chapitre 6. Les après. Guillaume à la Cauche. Voilà, je l'ai retrouvé, le nom que je cherchais. Le roi des ribauds. Curieux office que le sien, qui résulte d'une institution de Philippe Auguste. Il avait organisé pour sa garde étroite un corps de sergents, tous des géants, qu'on appelait les Ribaldi Regis, les ribauds du roi. Inversion de génitif ou bien jeu de mots, le chef de cette garde est devenu le Rex Ribaldorum. Nominalement, il commande aux sergents comme Périnée le Buffle et les autres. Et c'est lui, chaque soir, à l'heure du souper, qui fait le tour de l'hôtel royal pour voir si en sont bien sortis toutes gens qui ont entré à la cour, mais ne doivent pas y coucher. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, je crois, il a charge de surveiller les mauvais lieux dans toute ville où le roi séjourne. C'est-à-dire que, d'abord, il réglemente et inspecte les bordeaux de Paris, qui ne sont pas en petit nombre, sans parler des folieuses qui travaillent à leur compte dans les rues qui leur sont réservées. De même, les maisons où l'on joue les jeux de hasard. Tous ces méchants endroits sont ceux où l'on a le plus de chances de dépister voleurs, tire-laines, faussaires et meurtriers à gages. Et puis, de connaître les vices des gens parfois très haut placés, qui vous ont des mines tout à fait honorables. Si bien que le roi des ribauds est devenu le chef d'une sorte de police fort spéciale. Il a ses espies un peu partout. Il tient et entretient toute une vermine de tavernes qui le fournit en rapports et indices. Si l'on veut faire suivre un voyageur, en explorer le porte-manteau ou savoir à qui il se réunit, on s'adresse à lui. Ce n'est point un homme aimé, mais c'est un homme craint. Je vous en parle pour le jour où vous serez à la cour. Il vaut mieux n'être point mal avec lui. Il gagne gros car sa charge est moelleuse. Surveiller les catins, inspecter les bouges, c'est de bon profit. Outre les gages en argent et avantages en nature qu'il touche dans la maison du roi, il perçoit 2 sous de redevance à la semaine sur tous les logis bordeaux et toutes les femmes bordelières. Voilà un bel impôt, n'est-ce pas? Et dont la rentrée fait moins de difficultés que la gabelle. Également, il touche 5 sous des femmes adultères, enfin, de celles qui sont connues. Mais en même temps, c'est lui qui engage les galantes pour l'usage de la cour. On le paie pour avoir les yeux ouverts, mais on le paie souvent aussi pour les fermer. Et puis, c'est lui, quand le roi est en chevauchée, qui exécute ses sentences ou celles du tribunal des maréchaux. Il règle l'ordonnance des supplices, et dans ce cas, les dépouilles des condamnés lui reviennent, tout ce qu'ils ont sur le corps au moment de leur arrestation. Comme, ordinairement, ce n'est point le fretin du crime qui provoque la colère royale, mais de puissantes et riches gens, les vêtements et joyaux qu'ils récoltent sur eux ne sont pas pris négligeables. Le jour de Rouen, c'était l'aubaine. Un roi a décollé et 5 seigneurs d'un coup. Jamais roi des ribauds n'avait, oh, depuis Philippe Auguste, connu fortune pareille. Une occasion sans égale de se faire apprécier du souverain. Aussi ne ménageait-il pas sa peine. Un supplice, c'est un spectacle. Il lui avait fallu trouver, en s'adressant au maire, 6 charrettes, parce que le roi avait exigé 1 charrette par condamné, c'était ainsi. Cela ferait le cortège plus long. Elles attendaient dans la cour du château, attelées de percherons pattus. Il lui avait fallu trouver un bourreau, parce que le bourreau de la ville n'était pas là, ou bien qu'il n'y en avait pas d'appointé dans le moment. Le roi des ribauds avait tiré de la prison un méchant drôle appelé Bétrouve. Pierre Bétrouve, eh bien ce nom-là, vous voyez, je m'en souviens, allez savoir pourquoi, qui avait 4 homicides sur la conscience, ce qui paraissait une bonne préparation au travail qu'on allait lui confier, en échange d'une lettre de rémission délivrée par le roi. Il l'échappait belle, ce Bétrouve. S'il y avait eu un bourreau en ville... Il avait fallu aussi trouver un prêtre, mais c'est denrée moins rare et l'on ne s'était guère mis en peine pour le choisir. Le premier capucin venu dans le couvent le plus voisin. Durant ces apprêts, le roi Jean tenait petit conseil dans la salle du banquet un peu nettoyée. Oh, décidément, le temps est à la pluie. Il y en a pour la journée. Bah, nous avons de bonnes fourrures, de la braise dans nos échauffettes, des dragées, de l'hypocrase pour nous revigorer contre la mouillure. Nous avons de quoi tenir jusqu'à Auxerre. Je suis bien aise de revoir Auxerre. Cela va raviver mes souvenirs. Donc, le roi tenait conseil. Un conseil où il était presque seul à parler. Son frère d'Orléans se taisait, son fils d'Anjou également. Audrehem était sombre. Le roi lisait bien sur les visages de ses conseillers que même les plus acharnés à perdre le roi de Navarre n'approuveraient pas qu'il fût décapité ainsi, sans procès et comme à la sauvette. Cela rappelait trop l'exécution de Raoul de Brienne, l'ancien connétable, décidé de la sorte sur un coup de colère pour des raisons jamais éclairées et qui avait mal inauguré le règne. Seul Robert de Loris, le premier chambellan, semblait seconder le souverain dans son vouloir de vengeance instantanée. Mais c'était platitude plutôt que conviction. Il avait connu plusieurs mois de disgrâce pour s'être, aux yeux du roi, trop avancé du côté navarrais lors du traité de Mantes. Il fallait à Loris prouver sa fidélité. Nicolas Brac, qui a de l'habileté et sait manœuvrer le roi, chercha diversion en parlant de Friquet de Fricamp. Il opinait pour qu'on le gardât en vie, provisoirement, afin de lui faire subir une question en bonne et due forme. Nul doute que le gouverneur de Caen, suffisamment traité, n'ait à livrer des secrets bien intéressants. Comment connaître tous les rameaux de la conspiration si l'on ne conservait aucun des prisonniers ? « Oui, c'est sagement pensé, dit le roi. Qu'on garde Friquet. » Alors, Audrehem ouvrit une des fenêtres et cria au roi des ribauds dans la cour « 5 charrettes, il suffira !» confirmant du geste la main grande ouverte « 5 !» et l'une des charrettes fut renvoyée au maire. Si c'est sagesse de garder Fricamp, ce le serait plus encore de garder son maître, dit alors le dauphin. Le premier émoi passé, il avait repris son calme et son air réfléchi. Son honneur était engagé dans l'affaire. Il cherchait par tout moyen à sauver son beau-frère. Jean II avait demandé à Jean d'Artois de répéter, pour la gouverne de tous, ce qu'il savait du complot. Mais mon cousin Jean s'était montré moins assuré devant le conseil que devant le roi seul. Chuchoter de bouche à oreille une délation vous abonnèrent de certitude. Redite à haute voix pour 10 personnes, elle perd de la force. Après tout, il ne s'agissait que d'ondits. Un ancien serviteur avait vu, un autre avait entendu. Même si, dans le secret de l'âme, le duc de Normandie ne pouvait s'empêcher d'accorder crédit aux accusations portées, les présomptions ne lui semblaient pas assez établies. « Pour mon mauvais gendre, nous en savons assez, ce me semble, » dit le roi. « Non, mon père, nous ne savons guère, » répondit le dauphin. « Charles, êtes-vous donc si obtus ? » dit le roi avec colère. « N'avez-vous pas entendu que ce méchant parent sans foi ni aveu, cette bête nuisible, nous voulait saigner bientôt, moi puis vous ? Car vous aussi, il voulait vous oxyre. » Croyez-vous qu'après moi, vous eussiez été un grand obstacle aux entreprises de votre bon frère, qui voulait naguère vous tirer en Allemagne contre moi ? C'est notre place et notre trône qu'il guigne, rien moins. Ou bien êtes-vous toujours si coiffé de lui que vous refusiez de rien comprendre ? Alors le dauphin, qui prenait de l'assurance et de la détermination, « J'ai fort bien entendu, mon père, mais il n'y a preuve ni aveu. Et quelle preuve voulez-vous, Charles ? La parole d'un loyal cousin ne vous suffit-elle pas ? Attendez-vous de gésir, navré dans votre sang et percé comme le fut mon pauvre Charles d'Espagne, pour fournir la preuve ? » Le dauphin s'obstinait. « Il y a des présomptions très fortes, mon père, je ne le contredis point. Mais pour l'heure, rien de plus. Présomption n'est pas crime. Présomption est crime pour le roi qui a devoir de se garder, » dit Jean II devenu tout rouge. « Vous ne parlez pas en roi, Charles, mais comme un clerc d'université rancogné derrière ses gros livres. » Mais le jeune Charles tenait bon. « Si devoir royal est de se garder, ne nous mettons pas à nous décapiter entre rois. Charles d'Évreux a été oint et sacré pour la Navarre. Il est votre beau-fils, félon sans doute, mais votre beau-fils. Qui respectera les personnes royales si les rois s'envoient l'un l'autre au bourreau ? Il n'avait qu'à ne point commencer !» cria le roi. Alors le maréchal d'Audrehem intervint pour fournir son avis. « Sire, en l'occasion, c'est vous, aux yeux du monde, qui paraîtriez commencer. » Un maréchal Archambault, de même qu'un connétable, c'est toujours difficile à manier. Vous l'installez dans une autorité, et puis tout à coup, il en use pour vous contredire. Audrehem est un vieil homme de guerre. Pas si vieux que cela, au fond, il a moins d'âge que moi. Mais enfin, un homme qui a longtemps obéi en se taisant et vu beaucoup de sottises se commettre sans pouvoir rien dire. Alors il se rattrapait. Si encore nous avions pris tous les renards dans le même piège, continua-t-il. Mais Philippe de Navarre est libre, lui, et aussi acharné. Expédiez l'aîné et le cadet le remplace, qui soulèvera tout aussi bien son parti et traitera tout aussi bien avec l'anglais, d'autant qu'il est meilleur chevalier et plus ardent à la bataille. Louis d'Orléans vint alors appuyer le dauphin et le maréchal, représentant au roi qu'aussi longtemps qu'il tiendrait Navarre en prison, il garderait prise sur ses vassaux. Instruisez longuement procès contre lui, faites éclater sa noirceur, faites-le juger par les pairs du royaume, alors nul ne vous reprochera votre sentence. Quand le père de notre cousin Jean commit tous les actes qu'on sait, le roi, notre père, ne procéda pas autrement que par jugement public et solennel. Et quand notre grand-oncle Philippe le Bel découvrit l'inconduite de ces brus, si rapide qu'ait été sa justice, elle fut établie sur interrogatoire et prononcée en grande audience. Tout cela ne fut point du goût du roi Jean qui s'emporta de rechef. « Les beaux exemples, et bien profitables que vous me baillez là, mon frère !» Le grand jugement de Maubuisson a mis le déshonneur et le désordre dans la famille royale. Quant à Robert d'Artois, pour l'avoir seulement banni, n'en déplaise à notre cousin Jean, au lieu de le proprement saisir et auxir, il nous a ramené la guerre d'Angleterre. Monseigneur d'Orléans, qui n'aime point trop son aîné et se plaît à lui tenir tête, aurait alors réparti, on m'a assuré que cela fut dit, « Sire, mon frère, faut-il vous rappeler que Maubuisson ne nous a pas trop desservis ?» Sans Maubuisson ou notre grand-père Valois, que Dieu garde, joua sa part, c'est sans doute notre cousin de Navarre qui serait au trône en cette heure, au lieu de vous. Quant à la guerre d'Angleterre, le comte Robert y poussa peut-être, mais il ne lui apporta qu'une lance, la sienne. Or, la guerre d'Angleterre dure depuis 18 ans. Il paraît que le roi fléchit sous l'estocade. Il se retourna vers le dauphin qu'il regarda durement en disant « C'est vrai ». 18 ans. Juste votre âge, Charles, comme s'il lui faisait grief de cette coïncidence. Sur quoi Audrehem bougonna, nous aurions plus aisé à bouter l'anglais hors de chez nous si nous n'étions pas toujours à nous battre entre Français. Le roi resta muet un moment, l'air fort courroucé. Il faut être bien sûr de soi pour se maintenir dans une décision quand nul de ceux qui vous servent ne l'approuve. C'est à cela qu'on peut juger le caractère des princes. Mais le roi Jean n'est pas déterminé. Il est buté. Nicolas Braque, qui a appris dans les conseils l'art de profiter des silences, fournit au roi une porte de retraite en ménageant tout ensemble son orgueil et sa rancune. Sire, n'est-ce point expier bien vite que de mourir d'un coup ? Voici 2 années et plus que Monsieur de Navarre vous fait souffrir, et vous lui accorderiez si courte punition. Tenu en geôle, vous pouvez faire en sorte qu'il se sente mourir tous les jours. En outre, je gage que ses partisans ne laisseront pas de monter quelques tentatives pour le délivrer. Alors vous pourrez capturer ceux-là qui aujourd'hui ont nargué vos filets. Et vous aurez bon prétexte à abattre votre justice sur une rébellion si patente. Le roi se rallia à ce conseil, disant qu'en effet son traître beau-fils méritait d'expier plus longtemps. « Je diffère son exécution. » Puissais-je n'avoir pas à m'en repentir, mais à présent qu'on hâte le châtiment des autres. C'est assez de paroles et nous n'avons perdu que trop de temps. » Il semblait craindre qu'on ne parvînt à le dessaisir d'une autre tête. Audrehem, de la fenêtre, héla de nouveau le roi des ribauds et lui montra 4 doigts. Et comme il n'était pas sûr que l'autre eût bien compris, il lui dépêcha un archer pour lui dire qu'il y avait une charrette de moins. « Qu'on se hâte !» répétait le roi. « Faites délivrer ces traîtres !» Délivré. L'étrange mot qui peut surprendre ceux qui ne sont pas familiers de cet étrange prince. C'est sa formule habituelle quand il ordonne une exécution. Il ne dit pas « qu'on me délivre de ces traîtres », ce qui ferait sens, mais « délivrer ces traîtres ». Qu'est-ce que cela signifie pour lui ? Délivrez-les au bourreau, délivrez-les de la vie, ou bien est-ce simplement un lapsus dans lequel il s'obstine, parce que dans la colère sa tête confuse ne contrôle plus ses paroles ? « Je vous conte tout cela, Archambault, comme si j'y avais été. C'est que j'en ai eu le récit fait en juillet, à peine 3 mois après, quand les mémoires étaient encore fraîches, et par Audrehem, et par Monseigneur d'Orléans, et par Monseigneur le Dauphin lui-même, et aussi par Nicolas Braque. Chacun, bien sûr, se souvenant surtout de ce qu'il avait dit lui-même. De la sorte, j'ai reconstitué, assez justement, je crois, et dans le menu, toute cette affaire. » et j'en ai écrit au pape, auquel étaient parvenues des versions plus courtes et un peu différentes. Les détails en ces sortes de choses ont plus d'intérêt qu'on ne pense, parce que cela renseigne sur le caractère des gens. Loris et Braque sont tous deux des hommes fort avides d'argent et déshonnêtes dans leur âpreté à en faire. Mais Loris est d'assez médiocre nature, alors que Braque est un politique judicieux. Il pleut toujours. Brunet, où sommes-nous? Fontenoy? Ah oui, je me rappelle. C'était dans mon diocèse. Il s'est livré là une bataille fameuse, qui a eu de grosses conséquences pour la France. Fontanetum, selon le nom ancien. Vers l'an 840 ou 841, Charles et Louis le Germanique y ont défait leur frère Lothaire, à la suite de quoi ils signèrent le traité de Verdun. Et c'est à partir de là que le royaume de France a été pour toujours séparé de l'Empire. Avec cette pluie, on ne voit rien. D'ailleurs, il n'y a rien à voir. De temps en temps, les manants, en labourant, trouvent une poignée de glaive, un casque tout rongé, vieux de 500 ans. Poursuivons, Brunet, poursuivons.